Bonjour Monseigneur Jean-Marc Mika.
Bonjour Anne-Rose.
Merci de nous retrouver pour un nouvel entretien. Alors nous enregistrons cette émission au lendemain de la présentation d'un plan pour la paix présenté par Donald Trump ce lundi 29 septembre. Alors on ne sait pas encore comment ce plan pour la paix présenté en 20 points par le président américain va aboutir puisqu'il faut encore attendre la réponse du Hamas. Néanmoins, je ne peux pas m'empêcher de vous poser quand même la question dans cette entrevue hebdomadaire. D'abord, est-ce que c'est quelque chose que vous avez écouté, scruté, suivi avec intérêt? Est-ce que ce projet, encore un peu vague, on peut dire, pour la paix, vous semble quelque chose de crédible aujourd'hui?
Ce que l'on suit et scrute avec intérêt, c'est évidemment la situation des habitants de cette terre sainte, tellement meurtrie depuis tellement de décennies, où tout le monde est abîmé, blessé de mille façons. Alors évidemment, ce qui s'est passé le 7 octobre est absolument insupportable, absolument terrible, et les images qui en circulent, dit-on, alimentent la haine des uns, qui justifient ensuite la réaction extrêmement violente que d'aucuns peuvent juger disproportionnée en termes de nombre de personnes qui paient le prix de cette agression inadmissible, évidemment, du 7 octobre. Et ce qui se passe à Gaza et dans toute la bande de Gaza, et puis aussi dans les territoires de Cisjordanie, n'est pas davantage justifiable. Et donc, ça paraît absolument inextricable. Et tout ça, c'est la Terre Sainte, c'est la situation de tas de gens et de gens innocents, des personnes âgées, des enfants, qui sont prises en tenaille, en étau, et évidemment, on scrute ça avec nos yeux, notre cœur, notre intelligence, on essaie de comprendre. La retraite des évêques la semaine dernière à l'abbaye d'Ancalcate, avec l'évêque auxiliaire du patriarcat latin de Jérusalem, nous a aidés à ne pas être ni binaire ni simpliste dans la compréhension des enjeux, en remontant dans l'histoire, et où la haine des uns et des autres s'explique, tout s'explique, mais rien ne se justifie, rien n'est justifiable. Alors, évidemment, ce qui a été présenté hier soir par monsieur le président des États-Unis, ben on veut y croire. On veut y croire. J'entendais des commentaires ce matin d'experts qui, les uns disent qu'il y a des raisons d'y croire, d'autres disent que c'est absolument impossible pour les gens de l'autorité palestinienne ou du Hamas d'accepter les conditions posées. Et donc, j'ai envie de dire, on verra bien, d'une part, et continuons de prier vraiment pour demander l'impossible, c'est-à-dire la paix. À vue humaine, on ne voit pas comment c'est possible, mais justement, il faut prier avec insistance, et puis ne pas être simpliste, ne pas être simpliste dans les analyses, dans la compréhension, dans l'intelligence des choses, et essayer de nous intéresser par l'information à ce qui se passe, et puis voilà, ne pas être indifférent à ce qui se passe. Et partout où il y a de la haine, de la violence et de la guerre, rien ne le justifie, de quelque camp que ça vienne, et ça il nous faut le tenir et l'affirmer haut et fort, rien ne justifie de tuer des innocents, de tuer des enfants, de tuer des vieillards, d'affamer des peuples. Rien ne justifie cela, rien ne justifie de massacrer des jeunes qui font la fête, rien, 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 aucun combat ne légitime la haine, la violence, la mort. Bon. Voilà, une fois qu'on a posé cela, ben on se sent bien impuissant. Sinon, de ne pas nous enfoncer dans l'indifférence et l'insouciance parce que c'est loin, parce que c'est pas nous, parce que sais-je. Et vraiment de porter tout cela dans la prière en demandant à Dieu l'impossible et en le lui demandant encore et encore avec insistance.
Oui, c'est ça effectivement qui est compliqué parce que si on s'en tient juste à un ressenti ou un point de vue humain ou politique, on peut se dire que cette perspective de presque paix est un petit peu nous apparaît un petit peu compliquée ou pas tout à fait crédible. Mais en tant que chrétien, si on n'espère pas en cette paix, si on n'y croit pas, si on n'a pas un peu d'espérance en cette paix, on est coupable d'un manque d'espérance.
Ça a le mérite de proposer un plan de quelque chose. Ça a le mérite de proposer une solution qui demande beaucoup d'abnégation de la part des uns et des autres, sans doute, pour être accepté. Mais il faut demander à Dieu le miracle de cette acceptation, qui, pour l'instant, est la seule voie ou la seule issue qui semble possible. Bon, ben, écoutez, on verra bien.
Allez, on va parler de l'actualité du diocèse de Tarbes-Lourdes, puisque ce mardi 30 septembre, vous célébrez, vous rencontrez les chefs d'établissement des établissements catholiques des Hautes-Pyrénées, vous célébrez la messe de rentrée pour les établissements catholiques, hein, les écoles primaires, les collèges, les lycées. Cette messe, elle est évidemment pour tous, c'est important de le dire, parce que ça dit aussi un petit peu que les chefs d'établissement, ils n'ont pas leur mission à porter tout seuls. Mais néanmoins, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces chefs d'établissement qui se lance comme ça, pour une année encore, dans une mission qui n'est quand même pas si simple, il faut bien le dire.
L'école catholique est un lieu que j'ai découvert de manière profonde depuis que je suis en mission dans le diocèse ici de Tarbes-Lourdes, depuis que je suis évêque. Je ne connaissais pas bien auparavant. J'y ai découvert des gens engagés, formidables, qui croient en ce qu'ils font. Mmh. Et c'est un de ces lieux, pas si nombreux, pas si fréquents, où l'Église catholique et le message qu'elle porte est en contact avec la société, puisque le projet de l'école catholique, c'est d'accueillir de manière chrétienne, avec les convictions qui sont les nôtres, les valeurs qui sont les nôtres, toutes les personnes qui nous font confiance et les parents qui nous confient leurs enfants. Et donc cette manière de faire est assez originale, ambitieuse. Alors certains vont trouver que l'école n'est pas assez catholique parce qu'il n'y a pas que des catholiques. D'autres vont trouver qu'elle l'est trop parce qu'il y a des propositions pastorales explicites et des valeurs qui sont exprimées de manière explicite, bien.
C'est la question du caractère.
C'est l'ambiguïté, en tout cas, c'est la ligne de crête sur laquelle marche l'Église depuis toujours, dans sa relation à la société, et où elle est en tension entre le monde de Dieu et le monde des hommes pour proposer aux hommes la bonne nouvelle du salut. Voilà. Donc, c'est un beau projet qui est incarné par l'école catholique auprès des enfants. Et ce que je manifeste à tous les gens qui sont engagés dans l'école catholique, les chefs d'établissement, les enseignants, les personnels administratifs, les organismes de gestion, les parents d'élèves, c'est ma confiance en leur mission, mon estime aussi, mon soutien quand ils traversent des périodes compliquées. Et en ce moment, c'est une période compliquée où il y a beaucoup, beaucoup de soupçons, de regards de travers de la part de ceux qui connaissent pas, parce que les familles qui confient leurs enfants à nos établissements leur font confiance, et ils ont raison de le faire, et je le dis à temps et à contre-temps, et donc c'est leur manifester confiance et soutien dans un environnement où la société est plutôt en méfiance ou en défiance à l'égard de cette institution de l'Église catholique.
Vous sentez-vous qu'il y a parfois, pour reprendre un terme qu'on entend de temps en temps, une espèce de traque, une chasse à l'enseignement catholique en quête de la moindre erreur, de la moindre faille, vous sentez qu'il y a une pression, une oppression ?
Au-delà de l'opinion que je peux avoir en réponse à la question, ce qui est important et ce que je dis aux uns et aux autres, c'est faisons bien ce que nous avons à faire, faisons bien notre travail, assumons malgré telle ou telle critique que l'on estime injuste, cette mission extraordinaire qui est celle qui est confiée à l'école catholique, et le bon sens finit toujours par l'emporter, et voilà, ne nous terrons pas dans des terriers faisant le dos rond ou l'autruche ou que sais-je, et attendant que ça passe. Communiquons avec fierté sur ce que nous faisons de bien, convertissons ce qu'il y a à convertir pour faire encore mieux, mais allons de l'avant et ne passons pas plus d'énergie à essayer de nous défendre et de convaincre des gens qui ne veulent pas être convaincus. Et passons notre énergie à bien faire notre travail, à bien assumer notre mission pour le bien des enfants et de tous ceux qui sont engagés dans l'école catholique.
Alors il y a d'autres lieux qui sont engagés pour l'éducation, l'accompagnement des jeunes, ce sont les mouvements de jeunesse. Vous en avez rencontré quelques-uns au cours de ces derniers jours, là, l'Action catholique des enfants, les guides des scouts d'Europe aussi le week-end dernier. Des mouvements, des lieux pour les jeunes, il y en a tout un panel. Et quelquefois, ça rejoint un peu ce que vous dites à propos des paroisses, c'est qu'il y a un tas de sensibilités, un tas de styles. C'est pareil pour les mouvements, c'est pareil pour les mouvements de jeunes. Comment tous ces lieux-là, où les enfants et les jeunes trouvent leur place, ici ou là, comment ils s'associent justement à la mission d'enseignement catholique ? Comment ils peuvent travailler ou comment pourraient-ils mieux travailler ensemble ?
Ben, comme avec tout le reste des lieux de l'Église, c'est-à-dire en communion, en synergie, en participant à des moments communs proposés par le diocèse, mais aussi en existant chacun dans sa spécificité ou sa proposition originale, en renonçant, en refusant cette tentation qui consiste à dire hors de chez moi, point de salut, au contraire à se réjouir de ce que d'autres façons de faire et d'autres lieux permettent de toucher d'autres publics que de toute façon moi je ne toucherai jamais dans mon mouvement ou mon aumônerie ou mon paroisse ou mon association. Voilà, mais ça c'est l'enjeu de toute l'Église, c'est-à-dire ne pas prétendre uniformiser tout le monde derrière un seul étendard, sinon celui du Christ, mais justement celui du Christ, l'image qui s'impose c'est celle du corps de Saint Paul, où tout le monde n'est pas l'oreille, le pied, la main, le bras et que sais-je, mais où tous les éléments sont indispensables à l'organicité, au bon fonctionnement du corps. Ben pour les mouvements de jeunesse, c'est exactement la même chose, et l'école catholique s'inscrit dans cette proposition de l'Église au service de l'éducation humaine et chrétienne des jeunes, des enfants, et voilà, et donc de se réjouir de ce qu'il y ait une multitude de propositions, mais que chacune le fasse en communion, en esprit de communion avec toutes les autres. Voilà. Et ça me paraît, ben c'est toujours la clé, la même, quelles que soient les générations et les tranches d'âge concernées. Et donc, c'est vrai pour tous ces mouvements. Vous avez mentionné ce que j'ai rencontré récemment. Je me souviens, lorsque j'étais jeune prêtre, j'étais à la fois aumônier de scout unitaire de France, parce que dans la paroisse où j'étais, il y avait ces scouts unitaires de France, mais aumônier aussi du mouvement eucharistique des jeunes, puisque j'avais cette mission au niveau diocésain, mais aussi prêtre référent pour les aumôneries de l'enseignement public à l'échelle du diocèse de Toulouse.
Des styles différents.
Et de la paroisse où j'étais, à Saint-Gaudens. Bon, ben voilà, alors chacun a ses codes, ses langages, sa tradition, son histoire, son approche, mais tout ça, il faut renoncer à vouloir tout fondre dans une espèce de service large, pastoral des jeunes qui absorberait tout et tout le monde. Et il faut éviter que chaque chapelle fonctionne comme une chapelle qui estime qu'en dehors de chez elle, il n'y a rien de bien. Voilà, ben il faut les deux, il faut des propositions diverses, diversifiées, mais qui avancent en communion avec les autres pour le bien de tous.
Le lieu où ces mouvements se retrouvent, se croisent, finalement, c'est le diocèse, puisqu'ils ont chacun leur fonctionnement. Voilà, souvent, ce sont des réseaux à l'échelle nationale. Il n'empêche qu'ils ont un lien avec vous, puisque d'abord, ils vous invitent. Ça montre aussi l'intérêt qu'ils ont et l'envie qu'ils ont d'être rattachés vraiment à la vie diocésaine. Bon, ça, c'est plutôt encourageant. Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Est-ce qu'ils expriment, quand vous les rencontrez, une attente particulière ou un besoin particulier à l'égard du diocèse, des paroisses, des communautés ?
D'être reconnus, soutenus, encouragés, qu'on leur dise qu'on estime que ce qu'ils font est bien, qu'on puisse aussi leur dire qu'on attend, on leur confie tel ou tel développement, telle ou telle mission, telle ou telle orientation. Ils ont besoin de se sentir
légitime.
Légitime, ils le sont par le fait d'être un mouvement d'église ou une structure ou un service diocésain. Mais d'être que ce qu'ils font et ce qu'ils sont intéressent les autres et en particulier intéressent l'évêque. Mais voilà, c'est la mission que du coup j'ai confiée aux trois nouveaux pôles qui accompagne l'ensemble des services du diocèse, et notamment le pôle annonce de la foi qui est attentif à l'ensemble des propositions en direction des enfants et des jeunes, de manifester cette sollicitude de l'évêque à l'égard de tous. Mais bien sûr, je le fais à titre personnel aussi, chaque fois que j'en ai l'occasion.
Allez, on termine cet entretien en parlant du rosaire. Cette semaine, c'est le grand pèlerinage du rosaire à Lourdes. C'est magnifique à voir cette ferveur, cet engouement. Moi, je voudrais vous poser cette question qui est un peu personnelle. Qu'est-ce que la prière du rosaire, elle est dans votre vie d'évêque ?
Lorsque j'étais séminariste, tous les ans, je venais passer 3 semaines au sanctuaire de Lourdes, service pèlerin d'un jour, avant la reprise du séminaire en septembre, et je me souviens qu'à l'époque, le chapelain qui accompagnait ce service, le père Pierre Joindet, à la fin de chaque messe qu'il présidait, invitait les pèlerins présents ce jour-là à repartir chez eux en prenant l'engagement de dire au moins un « Je vous salue Marie » par jour. Et en disant, imaginez, voilà, vous êtes 600, 800, 2000, 5000, imaginez que chacun de vous tous les jours disent « un, je vous salue Marie », puis ceux que je verrai demain, pareil, puis ceux que je verrai après-demain, pareil, et ainsi de suite. Imaginez le nombre de « je vous salue Marie » qui montera de la terre vers le ciel que cela va représenter. Ça m'a interpellé, j'ai gardé ça comme indication pour ma propre vie de prière et ma relation à la Vierge Marie. Alors depuis que je suis ici, ben, je vous avais raconté mon émotion lorsque le nonce m'avait appris ma nomination à Tarbes et Lourdes, et au service du sanctuaire de Lourdes, ben, évidemment, la Vierge Marie occupe une place très importante dans ma prière personnelle. Autant que je le peux, j'essaie de prier un chapelet tous les jours. Voilà. Alors, il est peut-être pas, quand il n'est pas guidé ou accompagné avec d'autres, avec des pèlerins ou avec tel ou tel groupe, il est complètement privé, ben je le réaménage à ma façon. Enfin, il y a bien le nombre de « Je vous salue Marie » s'il faut. Les intentions qui y sont associées ou les méditations que j'y associe sont plus habitées par l'actualité de ma vie d'évêque et mes intentions de prière pour le diocèse, pour l'Église, pour le monde, pour la paix, etc. etc. Mais voilà. C'est comme ça que la prière du rosaire accompagne ma vie d'évêque.
Merci beaucoup, Monseigneur Mika. À la semaine prochaine.
Avec plaisir. Bonne semaine à tous.